aujourd'hui, en ce 15 décembre, c'est un choix un peu particulier que j'ai fait pour rencontres spirituelles. J'ai choisi 4 religieuses. Mais n'ayez pas peur, ça est des femmes formidables. Et l'une en particulier était une femme mariée, mère de 2 filles. Et une autre est très connue à Montréal, une Italienne d'origine, sœur Anselme Marie. Mère Anselme Marie était supérieure provinciale des Sœurs de Charité de Sainte-Marie et elle a fait ici à Montréal, surtout à Montréal-Nord, des choses absolument phénoménales. Hein. Elle a réalisé le complexe Marie-Clarac, c'est le nom de la fondatrice de leur congrégation, une Française qui a fondé cette congrégation à Turin. C'est elle qui a entrepris les résidences Angélica. Les cascades, ce sont d'immenses bâtiments, hein, c'est presque une ville, sans compter tout le reste dans tous les cas. C'est une Italienne admirable qui est décédée tout récemment, il y a à peine 3 ans. Et je vais vous parler aussi de la bienheureuse Virginie Centurione Braccelli, vous dire encore une autre Italienne, oui, une fondatrice des auxiliaires des Dames de la Miséricorde, mais elle est morte il y a bien longtemps, il y a plus de 300 ans, en 1651. Je compte aussi vous parler d'une carmélite, la bienheureuse Marie des Anges, qui est morte en 1717, et plus près de nous, une religieuse au nom curieux, très curieux, sœur Marie crucifiée, dit Rosa. Dit Rosa, c'était le nom de famille de son père, fondatrice de la congrégation des Ancelles de la Charité, qui a eu aussi une vie étonnante. Enfin, 3 femmes remarquables, 3 religieuses, si peu de vocations religieuses aujourd'hui. Pourquoi ne rendrait-on pas hommage à toutes ces femmes qui sont religieuses et qui écoutent rencontres spirituelles et qui sont un peu comme des mères sans enfants, puisque les noviciats sont presque vides ou vides. Et c'est pour leur rendre hommage que je fais donc cette émission aujourd'hui. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je commence avec la plus ancienne, la bienheureuse Virginie Centurione Braccelli. Je vous ai dit qu'elle avait été fondatrice des auxiliaires des Dames de la Miséricorde. C'est un beau nom, les Dames de la Miséricorde, quand même. Elle est née à Gênes, en Italie, donc dans le nord de l'Italie, près de la France, en 1587. Dans une famille de vieille noblesse, comme on dit souvent, mais il paraît que c'est vrai dans ce cas-ci. Et alors, elle aspirait à entrer au cloître, mais à 15 ans, elle a obéi à la volonté de son père. Son père était inflexible. Elle a épousé un monsieur Gaspard Braccelli, d'où son nom de Virginie Centurione Braccelli. C'est le nom de son époux. Il était jeune. Elle était jeune aussi, très jeune. Mais à l'époque, comprenez, moi j'ai une grand-mère qui s'est mariée à 16 ans. Alors c'est une grand-mère qui s'est mariée au milieu du siècle dernier à 16 ans. Oui, oui, mon père, moi, est né en 1881, était le dernier de la famille. Alors, voyez-vous, mes grands-parents, je ne les ai jamais connus. Et alors donc, son époux, très jeune, a mené une vie vraiment dissolue. C'était abracadabra. Il aimait jouer, perdre de l'argent, il aimait boire, se saouler. Bon, Dieu, ça rappelle des choses qu'on voit aujourd'hui très souvent et trop souvent. Rien de nouveau sous le soleil, hein. Et en quelques années, bien, il n'était plus qu'une loque. Vous savez, ces jeunes qui, à 25-30 ans, on se demande quel âge ils ont tellement ils sont devenus des loques à force de boire et de se conduire d'une façon désespérée et désespérante, car ce sont de grands malheureux. Et sa femme, Virginie, est parvenue, par amour, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de foi, à le faire revenir à Dieu avant sa mort. Alors, elle est devenue veuve, donc, jeune. Et Virginie sentait au fond de son cœur que Dieu l'appelait à vivre en aidant les autres, et particulièrement les enfants, les abandonnés, les vieillards et les malades. C'est la description de la plupart des grandes congrégations religieuses qui ont couvert la planète. L'Église catholique a été tellement présente auprès de ces enfants abandonnés, les vieillards, les malades. Mais ces innombrables congrégations, si vous saviez, quand on lit, c'est phénoménal la générosité. Ces millions, je dis bien, ces millions de femmes et ces millions d'hommes sont soit entrés en religion, soit étant mariés, ont consacré bénévolement tant de temps par amour pour Dieu, pour le Christ, consacré leur vie ou beaucoup de temps auprès des enfants abandonnés, des vieillards, des malades. Et cette bienheureuse aujourd'hui en est un signe, un beau signe. Un jour, elle a reçu dans sa maison une fille qui était abandonnée au froid de la rue. On en parle beaucoup actuellement, on voit les annonces dans le métro. Tous ces jeunes qui ont abandonné dans la rue, qui ont froid. Je pense à mon fils qui était ainsi abandonné dans la rue. Mais c'était l'été, lui. Je ne l'ai pas laissé passer l'hiver, je l'ai adopté avant. Mais c'est tellement épouvantable. Ces enfants de 18 ans, 17 ans, 20 ans, qui sont là perdus, perdus, hagards, sales, boutonnés, les figures abominables, les cheveux sales, des vêtements déchirés. C'est terrible. Alors elle l'a prise dans sa maison. Elle avait deux enfants. Et c'est le début de ses œuvres de charité. Alors quand ces deux filles ont été mariées, elle a renoncé à ses biens, parce que, comme je vous ai dit, elle était de famille de vieille noblesse, puis elle a fondé ses auxiliaires des Dames de la Miséricorde. Il n'y a pas de misère à Gênes qui la laissait indifférente dans la ville de Gênes. Et elle a fondé le refuge, avec une lettre majuscule, un refuge, comme centre des œuvres de bienfaisance. Puis, trois autres maisons, dont un monastère aussi. Le monastère du Mont Calvaire. Mais je termine cette trop brève vie en vous disant qu'elle est morte en 1651. Donc, même pas 70 ans. Et un siècle et demi plus tard, en 1801, quand on a exhumé son corps, encore une fois, voilà, on a trouvé son corps intact et flexible. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui me disent « Bah, c'est pas vrai, c'est pas possible. » C'est vrai, c'est possible, c'est authentifié, c'est vérifié par des médecins, des gens sérieux et des gens qui n'avaient pas la foi et qui sont venus examiner les choses et qui ont porté le jugement comme quoi son corps, après 150 ans, était intact et flexible. Voilà pour la bienheureuse Virginie Centurione Braccelli. Et maintenant, notre deuxième religieuse pour aujourd'hui, une carmélite, c'est-à-dire plutôt, la fondatrice de la congrégation des Ancelles de la Charité, qui est morte en 1855, une Italienne encore, sainte Marie crucifiée di Rosa. Son père Clément di Rosa était chevalier du Saint-Empire romain. Il était directeur d'une filature à Brescia, donc un homme puissant, un homme riche. Il avait d'ailleurs épousé son père, la comtesse Camille Albani. Ça vous rappelle pas quelque chose, les gens plus âgés, Albani? Oui, le nom de cette fameuse cantatrice québécoise qui a fait fureur à travers le monde et qui a chanté, mon Dieu, à la cour d'Angleterre et qui a chanté pour des présidents et des rois partout dans le monde. Albani. C'était une bonne Québécoise, au tournant du siècle, si je me souviens bien. Alors, tous deux ont eu 9 enfants, et la sixième, Paul-Marie-Françoise, est née le 6 novembre 1813. Une petite scorpion, dirait certains. Elle fut ondoyée le même jour. Mais le complément des cérémonies du baptême a eu lieu un mois et demi plus tard. Juste à la veille de Noël, quoi, le 22 décembre, dans une église dédiée à Saint-Laurent, où, à partir de son adolescence, elle aimait bien se rendre chaque année, et se trouve ça très bien, le jour de son anniversaire, pour renouveler les promesses de son baptême. Elle avait été ondoyée le jour de sa naissance. Hein. Alors, elle rendait grâce à Dieu, et de sa naissance, et surtout de son baptême. Et je me demande combien de gens pensent à ça, de rendre grâce à Dieu, hein, le jour de notre anniversaire de naissance. de remercier Dieu aussi le jour de l'anniversaire de notre baptême et de faire la même chose le jour de notre confirmation. Vous souvenez-vous du jour de votre confirmation? Moi, je sais que c'est le 26 avril et chaque année, je vais à la messe pour renouveler cette confirmation et le lendemain, renouveler mon enchantement de ma première communion. Alors, quel enchantement c'était notre première communion autrefois? Je ne sais pas comment c'est pour les enfants aujourd'hui, mais je lisais, je crois vous l'avoir déjà dit, le texte d'un incroyant qui disait que le plus beau jour de sa vie, c'était le jour de sa première communion. C'était très curieux de lire ça, un grand intellectuel français qui reconnaissait que le jour de l'enchantement de sa vie, ça avait été le jour de sa première communion, que rien n'avait été aussi beau depuis. Étrange, hein? Et notre Paul-Françoise-Marie, ou Marie-Françoise, a eu une enfance heureuse dans sa famille, qui était à l'aise, hein, jusqu'à la mort de sa mère, qu'elle a eu la douleur de perdre alors qu'elle n'avait que 11 ans. C'est un âge tragique pour perdre sa mère, ça. J'ai vu ça dans ma famille. Mon frère a perdu sa femme et est resté avec 6 enfants de 16 à 5 ans, et ça a été tragique. Son père a donc décidé de la confier aux visitandines. Vous savez, je vous en ai parlé il y a quelques jours, le 11, là, quand je vous ai parlé de Sainte-Jeanne de Chantal qui a fondé les visitandines. C'est il y a 3 jours, ça. 4 jours. Et alors, à Brescia, donc, les visitandines ont noté chez Paul son caractère sérieux, sa piété. Mais elle s'est pas plu tellement chez les visitandines. Elle est restée là quand même un bon bout de temps, hein, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et quand elle en est sortie, elle savait tout ce que doit connaître, au fond, une jeune fille, disons, de bonne famille. C'était très important à l'époque. Ça devrait l'être encore un peu aujourd'hui quand même. Et elle avait goûté et apprécié pour toujours un trésor qui existe chez les visitandines, et je vous en ai parlé l'autre jour, c'est la spiritualité merveilleuse de Saint François de Sales, qui est cette spiritualité basée sur l'amour, hein? Comme chez Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, d'ailleurs. C'est pas nouveau, hein? C'est rien de nouveau. Les gens s'imaginent que c'est depuis le Concile qu'on insiste sur l'amour. Qu'avant ça, on avait peur de Dieu, il fallait lui offrir des sacrifices pour lui plaire et le calmer un peu parce qu'il était fâché. Mais non, la belle spiritualité de l'amour, que Dieu est amour, et que Dieu attend de nous une réponse à son amour. Et cette réponse, elle se fait dans la pratique de l'Eucharistie, et dans la prière et l'oraison, et surtout dans le don de soi aux autres, dans le souci des gens malheureux autour de nous, qu'ils soient riches ou pauvres. Et alors, notre Paul a tenu la maison de son père, veuf évidemment, et qui a jugé qu'elle était bonne à marier. Voilà un autre père qui veut marier sa fille, et quand il a eu trouvé un gendre acceptable, eh bien notre Paul a été effrayé. Elle a fait part de ses craintes à l'archiprêtre de la cathédrale, Monseigneur Faustino Pinzoni. Je donne son nom parce que c'est un prêtre merveilleux, un prêtre éclairé et prudent, qui est allé voir le père, Monsieur Clément Di Rosa. Alors, dans ce temps-là, les pères n'avaient pas coutume de se soucier tellement des désirs de leurs filles pour les marier. Mais le Monseigneur Pinzoni a plaidé très très bien la cause de la jeune Paul. Et ce grand industriel, M. Di Rosa, a finalement consenti à la laisser faire ce qu'elle voudrait. Il ne l'a pu jamais ennuyer par la suite. Il s'est soumis totalement à cette idée qu'elle pourrait devenir religieuse, ce qui ne lui souriait pas tellement. Il pensait quelquefois que ses activités à sa fille là étaient plutôt bizarres et anormales. Vous comprenez, quand un homme a des ambitions pour ses enfants, et c'est bien normal, et qu'il voit son enfant aller à la messe tous les jours, prier, puis tout ça. Je me souviens que mon père n'aimait pas tellement ça. Il trouvait ça curieux qu'on puisse aller passer une semaine ou deux dans des monastères, quand on était très jeune, 13, 14, 15 ans, qu'on lui disait à 16 ans qu'on voulait rentrer dans un monastère l'année suivante, comprenait rien à tout ça. Pour lui, c'était effroyable, plutôt que de devenir médecin, avocat, architecte, être quelqu'un d'important dans la société. Et notre Paul, donc, tout en s'occupant de la maison, a commencé à s'intéresser à quoi? Bien, aux besoins spirituels des nombreuses ouvrières qui travaillaient pour son père dans la filature d'Aquafredda. Aquafredda, ça veut dire, ceux qui connaissent l'italien le savent, eau froide. Charmant nom pour un endroit, Aquafredda. Et alors, chaque automne, la famille des Di Rosa se rendait dans leur maison de campagne, de Capriano et Paul. Là-bas, ils secondaient le curé de campagne. Elle y a créé une confrérie pour les femmes. Elle a organisé des retraites et même des missions paroissiales, c'est-à-dire des espèces de prédications de paroisse en paroisse pour aider les gens à retrouver la foi vivante, à espérer davantage dans l'amour de Dieu et à vivre intelligemment leur vie en tant qu'homme, femme ou enfant. Ça a donné des résultats extraordinaires. Le curé était surpris de la façon dont elle secouait les âmes. Et en 1836, la peste est apparue en Italie. Et ça a fait, dans la ville de Brescia, des ravages épouvantables. Alors, avec l'avis favorable de son fameux Monseigneur Pinzoni, qui l'avait aidé, Paul a demandé à son père la permission d'aller soigner les pestiférés. Et ce bonhomme, qui se convertissait lentement, a consenti après quelques hésitations. Alors Paul s'est rendu à l'hôpital avec une dame qu'elle avait rencontrée, une veuve qui s'appelait Gabrielle Ekenos Bornati, qui avait l'expérience des soins à donner aux malades, et elles ont été d'autant mieux reçues par les infirmières et les médecins que les infirmières manquaient. Et 4 jours plus tard, Paul a été appelé au chevet de qui? De son frère Philippe, qui bientôt a été enlevé par la peste, cette maladie abominable. Alors elle est retournée après à l'hôpital quand même. Elle y est restée plusieurs mois, risquant d'être fauchée comme son frère. Elle ne craignait rien, mais sa douceur, son travail ont fait l'admiration de tous. Puis on lui a confié la direction d'une espèce d'atelier de charité pour les filles pauvres et abandonnées. Elle a très bien fait son travail. Elle fut bientôt convaincue qu'il fallait loger ses filles. Les administrateurs ne furent pas d'accord avec elle. Et au bout de 2 ans, elle les a quittées pour en installer 12 dans une petite maison. Elle l'a fait elle-même, quoi. Vous voulez pas le faire? Je vais le faire. Alors, elle s'est occupée également d'une école pour sourdes-muettes qui avait été projetée par son Monseigneur Pinzoni et son frère Philippe avant qu'il ne meure. Mais elle l'abandonna bientôt à des sœurs qui venaient de Canos, qui entreprenaient la même œuvre sur une plus grande échelle. Alors, ses activités charitables ne l'empêchaient pas de lire. C'était pas une active qui oubliait de s'instruire. Elle disait qu'elle ne voulait pas rester au niveau du petit catéchisme. Dites-vous bien ça. Peut-être avez-vous pas eu la chance de vous instruire. Ne restez pas au niveau du petit catéchisme. Allez dans des librairies catholiques intelligentes, comme il y en a à Montréal, là. Puis il y en a un peu partout, il y en a à Sherbrooke et ailleurs. Demandez conseil à des libraires, ou bien demandez conseil à des gens avertis, et lisez des livres qui seraient susceptibles de vous intéresser, de vous faire mieux comprendre qui est Jésus-Christ, ce qu'est l'Église, l'histoire de l'Église, les saints. Alors, elle a réussi, elle, avec ses lectures, à acquérir une connaissance peu ordinaire de la théologie. Elle était d'ailleurs servie par une très bonne mémoire des choses et des gens. Et en 1840, avec Gabrielle Ekenos Bornati et 2 autres compagnes, bien, Paul s'est installé dans une maison très inconfortable, près de l'hôpital de Brescia, dans le but de soigner les malades, puis de les assister de toutes les façons possibles. Alors, elles prirent le nom d'Ancelles de la Charité. C'est là qu'elles fondent les Ancelles de la Charité. Et chose étonnante, au début, ce sont 15 tyroliennes. Oui, je sais pas si elles chantaient comme les tyroliens, mais elles venaient du Tyrol, imaginez. Elles étaient dans le nord de l'Italie, et le Tyrol, c'est tout près, c'est à côté. Qui ont pas tardé à les rejoindre. Et là, la communauté a compté bientôt 22 membres. Et un médecin a parlait d'elle partout avec les plus grands éloges. Il a même écrit dans la presse locale, faisant des éloges, montrant leurs activités matérielles et spirituelles. Mais malheureusement, il y a eu des critiques qui considéraient leur entrée dans l'hôpital comme une intrusion. Des gens qui n'aiment pas les religieuses, évidemment. Hein. C'est des anticléricaux, probablement. Et 3 mois après, on leur a demandé d'apporter leur service à Crémone et elles y ont consenti. Paul Di Rosa désirait un statut légal pour son ensemble de religieuses, mais le gouverneur de Milan, qui avait reçu des rapports défavorables, a imposé des conditions absolument inadmissibles. Alors Paul a répondu en fixant le délai au bout duquel elle quitterait l'hôpital alors. Et cette perspective a indigné le peuple de Brescia qui tenait aux religieuses. Alors l'évêque et le gouverneur de la Vénétie, c'est-à-dire la région de Venise, se sont empressés d'agir auprès du gouverneur de Milan, qui a fini, lui, par accorder son autorisation comment? Purement et simplement, il était convaincu. « J'espère que ce ne sera pas notre dernière croix », écrivait Paul Di Rosa, à la maison de Crémone, car, pour dire vrai, j'ai toujours été navré de ne pas avoir été persécuté. Elle tenait à être un peu persécutée. Et c'est vrai que les communautés persécutées réussissent habituellement à mieux s'épanouir. C'est drôle dans l'histoire d'Église. Alors, peu après, son père Clément Di Rosa a donné une maison plus commode et des règles donc furent approuvées par l'évêque en 1843. Et là, la mort de sa grande amie Gabrielle Bornati a privé Paul de sa meilleure collaboratrice. Et Monseigneur Pinzoni est mort durant l'été de 1848, là, au moment où soufflait sur l'Europe un vent de révolution qui a amené la guerre dans le nord de l'Italie. Alors les Ancelles, qui avaient déjà pris en charge un nouvel hôpital de Brescia, ont accepté également l'hôpital militaire Saint-Luc, où elles ont eu à supporter l'hostilité des médecins qui leur préféraient des infirmières laïques et des administrateurs militaires. Mais leur zèle a pu s'employer auprès des victimes civiles de la guerre et des soldats blessés. Et elles ont fait, en somme, comme Sainte-Marguerite d'Youville. Elles ont soigné les soldats des deux camps sans distinction. Et elles ont pu même secourir un journaliste qui les avait un peu plus tôt violemment attaqués. Et un soir, une bande de gens très irréguliers ont voulu envahir l'hôpital et Paul s'est présenté à la grande porte en portant un crucifix puis encadré de chandelles allumées et les assaillants ont hésité puis ont fini par s'en aller. Il y a un chanoine, le chanoine Bianchini, qui avait pris près d'elle la place de Mgr Pinzoni, a encouragé Sir Paul Di Rosa dans son projet de faire reconnaître son institut par le pape, par le Saint-Siège. Et à l'automne de 1850, elle a fait le voyage de Rome et le pape Pie IX l'a reçu. Et puis, 2 mois plus tard, avec une remarquable rapidité, les constitutions étaient approuvées, le pouvoir civil a été plus long aux hôtesses décidées. Et finalement, bien, les 25 premières sœurs, leurs fondatrices, ont prononcé leurs vœux devant l'évêque de Brescia. Et elles ajoutaient, et c'est très beau ça, elles ajoutaient aux 3 vœux de religion, celui de soigner les malades, c'est un vœu, et le vœu de soigner les contagieux, ce qui est très dangereux. Et Paul a pris le nom de Marie crucifiée. Nous terminerons cela tout à l'heure. Avec cette érection canonique, comme on dit, cette acceptation de sa congrégation, c'était le signal d'une extension rapide. Et là, toutes sortes de maisons se sont fondées. Il y avait des écoles, des orphelinats, des hôpitaux. C'était une réussite fantastique. Et ça donnait le change sur toutes les difficultés, les épreuves sans nombre auxquelles elle s'était heurtée, puis elle se heurta par la suite aussi, parce que si elle a enduré des aridités politiques, si on peut dire, et elle a eu surtout des difficultés spirituelles terribles au fond de son âme. Et sa santé, d'ailleurs, avait été fragile. Il ne s'en était jamais soucié, mais à 42 ans, elle était à bout de force. 42 ans seulement. Et alors, elle s'est sentie un peu mieux le vendredi saint 1855, et c'était considéré comme presque comme un miracle, mais il lui restait tellement à faire, et alors, il fallait écarter une menace de choléra à Brescia, encore une autre épidémie, alors, il fallait ouvrir des couvents en différents endroits, et puis elle est tombée malade à Mantoue. Elle a souhaité vivement de pouvoir rentrer à Brescia pour y mourir. Ce qui lui en est fait 3 semaines plus tard, elle est morte le 15 décembre 1855. Alors le peuple de Brescia s'est pressée à ses funérailles car tout le monde l'aimait. Elle avait un cœur immense. Elle avait dit qu'elle ne pouvait pas dormir la conscience tranquille si elle n'avait pas empêché le mal ou aidé à faire le bien. Le mal, pas simplement le mal moral, hein, mais le mal aussi, la souffrance. Elle n'aimait pas la souffrance, et je crois pas que Dieu ne l'aime non plus. Elle était à l'image de Dieu. Elle accomplit une tâche énorme en secourant les veuves, les femmes sans travail, les filles en danger, les enfants abandonnés, auxquels elle avait toujours donné ce dont ils avaient besoin. Et sa congrégation comptait déjà 24 maisons. Elle est morte jeune, 42 ans. Elle a été béatifiée le 26 mai 1940 et canonisée le 13 juin 1954. Et maintenant, je vous parle d'une carmélite, c'est tout autre chose, qui est morte en 1717. Elle était la fille du comte de Santena, Jean Donato Fontanella, qui a eu 11 enfants de sa femme Marie Tana. Et d'ailleurs, sa femme, c'est assez étrange, bien son père était le cousin de Saint-Louis Gonzague. Alors le 8 janvier 1661 est née la 9e enfant, qui s'appelait Mariana, et qui s'est fait remarquer pour son intelligence. À l'âge de 6 ans, d'ailleurs, elle a projeté, c'est assez curieux, ça rappelle un peu Thérèse d'Avila, elle a projeté d'aller vivre dans le désert avec son petit frère. 2 ans plus tard, très gravement malade, elle a recouvré la santé miraculeusement après une invocation à la Vierge qui lui est apparue. Ça ne vous rappelle pas Thérèse l'Enfant Jésus? C'est exactement la même chose. Et un soir, elle assistait à la bénédiction du Saint-Sacrement auprès d'une de ses sœurs quand son voisin, chose étrange, un homme à l'allure étrange, lui a donné une forte gifle et est disparu dans le brouhaha qui a suivi. Il n'a jamais pu être identifié, mais Mariana a appris, dans cette étrange aventure, à méditer sur quoi? Eh bien, tout simplement sur le soufflet que le Christ a reçu d'un des soldats de Caïphe, lors de son procès. Elle avait 12 ans quand une de ses sœurs a pris la vie chez les cisterciennes de Salud, Zoé. Alors, admise dans la clôture, elle n'a pas voulu en sortir, elle aimait trop ça. À 12 ans, oui. Et sa mère a consenti donc à la laisser pour y achever son éducation, car elle pouvait y recevoir une certaine éducation. Ça se pratiquait beaucoup dans tous les monastères à l'époque, ou presque tous les monastères. Mais elle n'a pas aimé tellement la vie des cisterciennes, elle est tombée malade. Elle est revenue dans la maison familiale au moment de la mort de son père. Et lors d'une ostension du Saint-Suaire à Turin, une ostension, c'est-à-dire quand on prend le Saint-Suaire, on le déroule et on le montre à la foule. Dans ce temps-là, les évêques portaient des gants et tenaient le Saint-Suaire et se plaçaient devant la basilique de Turin, la cathédrale de Turin, et le montraient à la foule. On a des estampes et des dessins de ces événements, et qui étaient très très rares. Alors, elle a rencontré un carme à ce moment-là qui s'intéressa à elle et qui lui a conseillé d'entrer dans son ordre chez les carmélites. Sa famille n'était pas très satisfaite de cette nouvelle. Mais Mariana a tenu bon et à 16 ans, elle est entrée au Carmel de Santa Cristina. À 16 ans, oui, ça se faisait. Vous savez que Thérèse d'Enfant Jésus est entrée à 15 ans. Alors, elle y a appris d'abord ce qu'est le mal du pays. Elle a senti même de l'aversion pour sa nouvelle vie. Mais elle était têtue. Elle avait même de l'aversion pour la maîtresse des novices. Je pense que c'est déjà arrivé à d'autres sœurs, ça. Mais elle avait une volonté, comme je vous ai dit, qui était inébranlable. Elle a fait profession sous le nom de sœur Marie des Anges. Et 7 ans après son entrée, c'était la grande épreuve, comme il arrive souvent. C'était la nuit noire, la nuit obscure dont parle Saint Jean de la Croix, pendant laquelle elle avait l'impression que le diable la tourmentait horriblement. Et heureusement, elle a rencontré un directeur spirituel qui était très capable, un carme, qui s'appelait le père Laurent-Marie, qui après 3 ans a réussi à lui faire retrouver la paix. Alors, elle a montré alors un désir ardent, chose curieuse, et qui n'existe plus, j'espère, aujourd'hui, un désir ardent de mortification corporelle. C'est inimitable, au fond, même si c'est admirable. Faut pas oublier que beaucoup de saints sont passés par là. Hein? sont passés par là, ça les a menés à la sainteté, mais c'est curieux, c'est étrange. Il y a quelque chose un peu masochiste dans tout ça, je trouve. Mais il faut pas exagérer, la pénitence est une saine voie vers le contrôle de soi-même et la capacité de se donner. Il faut être capable de pratiquer certaines pénitences, mais l'immortification auquel s'est exercée, je ne vous les décris pas, car ça tourne au ridicule, je préfère ne pas vous les dire. Quand elle a eu 30 ans, elle a été nommée maîtresse des novices, et 3 ans plus tard, elle était prieure, charge qu'elle a acceptée, bien que ça lui répugnait énormément. Puis, quand on l'a déchargée de ces emplois-là, elle était très heureuse. Son influence avait largement débordé la clôture du Carmel. Les princes de la maison de Savoie, autour de Turin, là, et à Turin, et beaucoup d'autres, avaient pris l'habitude d'aller lui demander son avis, et de le suivre même. Et tous les témoins de sa vie se sont accordés pour dire qu'émanait d'elle, chose étrange, une odeur de sainteté qui ne ressemblait à aucun parfum connu, ni à celui des fleurs, ni à ceux que l'on prépare artificiellement. Vous direz que c'est impossible? Je vous assure que je suis sûr que ça existe. J'en ai été témoin, je le dis. Et comme beaucoup de mystiques, Marie des Anges se montrait fort entendue, fort au courant, pour traiter des questions matérielles. Elle savait tenir des comptes, elle savait surveiller des travaux des ouvriers, elle savait gouverner la maison. C'est comme Thérèse d'Avila, ces grands mystiques ont les pieds à terre. Hein. Et en 1717, elle a été élue prieure pour la 5e fois. Elle ne voulait pas, elle a fait valoir son état de santé qui l'obligeait à profiter des dispenses, elle avait mangé un peu plus et puis ne pas se lever pour les matines et tout ça. Elle disait ça va être un mauvais exemple pour les autres sœurs, mais elle a eu recours à son confesseur puis au prieur provincial. Personne n'a voulu l'entendre, elle a été obligée d'occuper le poste et elle a demandé alors à Dieu de bien vouloir la retirer du monde. Chose étrange, hein? Elle est exaucée. 3 semaines plus tard, elle est tombée malade. Curieux. Alors là, les sœurs ont été consternées, mais comme elles savaient que leur supérieur, leur prieur, obéissait toujours, elles ont suggéré à leur supérieur, les hommes, là, de lui donner l'ordre de guérir. Alors, ils hésitaient, et Mère Marie des Anges a déclaré, je trouve ça sympathique, « L'obéissance veut ce que Dieu veut. » Jésus m'a accordé ce que je lui ai demandé et il ne changera pas d'idée. Et elle est morte le 16 décembre 1717, il y a plus de 275 ans, quoi. Et ses funérailles ont été un triomphe. Et 5 ans plus tard, le 10 octobre 1722, on a procédé à la première reconnaissance du corps, mais il n'était pas conservé. Et le procès commencé dès cette époque, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, ça n'a abouti à la béatification que le 14 mai 1865. Et maintenant, il sera question de Mère Anselme, une femme forte de l'Évangile, quoi. Mère Anselme, elle a vécu à Montréal Nord. C'est l'histoire d'une femme qui a voué sa vie à Dieu à l'âge de 16 ans. Encore une autre, à 16 ans, hein. Cette jeune femme italienne encore, une autre italienne qui a émigré au Québec, elle, en 1949, après avoir connu la Deuxième Guerre mondiale en Afrique. C'est une femme d'affaires aguerrie, une avant-gardiste, qui s'est battue contre les gouvernements et parfois contre l'archevêché pour pouvoir arriver à ses fins. Il faut surtout pas imaginer Mère Anselme comme une religieuse pincée, là, au langage pointu, puis à l'allure taciturne. Non, non, c'est pas ce genre de sœur. Non, non, non. Elle dégageait une autorité qui est inhérente aux gens d'action et de décision. Mais ce qui est remarquable, c'est son sens, là, vraiment imprenable de la répartie, son humour, parfois caustique. Ce beau caractère, elle l'a formé à force d'obéir à Dieu et à ses supérieurs dans l'Église. D'ailleurs, elle dira que les jeunes d'aujourd'hui n'apprennent plus à obéir, épreuve nécessaire à la formation des vrais leaders. Hein. Son vrai nom, c'était Cesira Parisotto. Or, sœur Anselme est née le 31 mai 1909 à Trévise, en Italie. Et à l'âge de 16 ans, Elle a fait son entrée à l'Institut des Sœurs de Charité de Sainte-Marie à Turin. On revient encore à Turin. Et sa première mission, de 1927 à 1939, était d'étudier pour obtenir des diplômes en enseignement préscolaire, puis élémentaire, afin d'enseigner aux enfants. Et en 1939, on lui a demandé de devenir infirmière, après avoir étudié tout ça. Ce qu'elle a fait, ça demande l'obéissance, hein. À la fin de son cours, elle est nommée infirmière et supérieure à l'hôpital territorial de Jimma, c'est dans les confins du Kenya, en Afrique, ça. Puis c'est la guerre. Alors, sœur Anselme est faite prisonnière de guerre par les Anglais qui ont envahi ce coin de l'Afrique. Alors, elle restera dans un camp de concentration jusqu'en 1942, jusqu'à ce que Mussolini réussisse à la rapatrier, elle et quatre autres sœurs, en Italie. Et pendant ce temps, elle aura appris l'anglais. Et de 1943 à 1949, elle restera en Italie, où elle est surveillante économe, puis finalement supérieure d'un hôpital civil. Et à cette époque, la pauvreté sévit beaucoup en Italie. C'est tout le lendemain de la guerre. C'est terrible, hein? Et l'Institut des Sœurs de Charité de Sainte-Marie veut prévenir le pire. Alors on envoie 9 de ces religieuses au Canada, au Québec. Ils fondent une maison. En 1983, sœur Angèle, sœur Anselme est à la recherche de toutes sortes de défis. Et elle passe une vie étonnante, extraordinaire, à travailler, travailler et travailler. C'est surtout le 18 septembre 1949 qu'arrivent de l'Italie à Québec sur le bateau Samaria les 10 religieuses, hein, dont mère Anselme, 9 ou 10, et la sœur. Elle est la seule qui parle français. Le 19 septembre, les frères Maristes retardent à venir les chercher, car elles n'ont pas d'argent pour le train. Elles ont en poche 8 dollars au lieu de 12, imaginez, qu'il fallait pour les billets. Elles attendent donc dans une église, les frères Maristes, et les frères Maristes les conduisent à Laval, à Saint-Vincent-de-Paul dans le temps, où elle s'installe au collège Laval. Et mère Anselme fait le chef de file de ce petit groupe de religieuses, et tout en travaillant pour les frères Maristes, eh bien, mère Anselme cherche l'endroit pour son œuvre. Et elle choisit de l'autre côté de la rivière des Prairies, Montréal-Nord. Elles achètent plusieurs petits terrains, des petites maisons, et en 1954, donc au bout de 5 ans, elle ouvre la maternelle pour externe, mais surtout un pensionnat pour des enfants pauvres et abandonnés. Et même à cette époque, la police trouvait beaucoup d'enfants laissés à eux-mêmes dans la rue, à cause des familles qui étaient désunies, ça commençait de plus en plus, et des familles aussi qui avaient de sérieux problèmes de toutes sortes, de l'alcoolisme ou de la prostitution. Et 24 heures par jour, la porte était donc ouverte pour tous ces petits-enfants qui avaient besoin d'un toit, et surtout d'un cœur de mère. Et les religieuses pensaient à tout, à l'hygiène, à l'habillement, à la nourriture, à l'école aussi. Et mère Anselme veillait sur tout, et du fonctionnement de la fournaise à la bonne nourriture pour la marmite, du bon soulier là, aux médicaments adaptés. Elle se levait d'ailleurs pieds nus pendant la nuit pour se rendre compte que tout le monde reposait calmement. Et s'il y avait un enfant malade, elle le surveillait, elle lui tenait la main comme une bonne mère. Elle avait de tout dans sa sacoche de sœur, comme on disait. Je porte avec moi toutes mes choses. Elle avait son porte-monnaie, tout en étant peu garni, qui s'ouvrait toujours à quelqu'un qui venait frapper à sa porte. Et pendant les étés, elle avait organisé la colonie Sainte-Marie sur les terrains de Montréal-Nord. Et voulant donner aux enfants de la ville un lieu de vacances en plein air, elle a acheté en 1956 l'actuel terrain du camp Mère Marie-Louise Clarac. Mais Dieu seul sait les difficultés, le travail pour organiser son camp. Alors elle avait les bottes aux pieds, le galon à la main, elle parcourait le grand terrain pour mesurer, planifier les installations nécessaires, un bon camp de vacances, et elle priait beaucoup. Souvent elle disait, oh, si je devais tapisser les 140 acres de terrain, avec les dollars que le camp coûtait, je n'aurais pas assez de terre pour les mettre tous. Et son motto de camp m'a été gravé sur le mur central. Il faut avoir pour l'enfant le plus grand respect. L'ambition de mère Anselme pour la propreté, l'organisation du camp, et bien connue de tous ceux qui l'ont côtoyée sur le terrain. Elle était toujours là, et elle voyait tout. Un petit papier par terre, une branche sèche sur un arbre, un enfant au soulier détaché, un visiteur qui demandait des renseignements, elle s'occupait de tout. Parmi les multiples activités du camp, elle voulait aussi l'équitation, un sport dispendieux, mais qui ferait beaucoup de bien aux enfants. C'est un camp qui est à Saint-Donat. Et c'était bien avant-gardiste à l'époque. Elle répétait souvent, l'éducation des jeunes n'a pas de prix. Avec la formation humaine des enfants, Mère Anselme voulait que ses consoeurs donnent une vraie éducation religieuse. Elle avait fait sienne la maxime du cardinal Mercier. Former le Christ dans une âme d'enfant, je ne connais pas d'œuvre de zèle qui dépasse celle-là. Alors aucune difficulté n'arrêtait Mère Anselme dans son œuvre de bien. Elle ne se lassait pas de répéter, ne vous arrêtez jamais. Elle le disait parfois en anglais, elle qui avait appris cette langue, never give up. Et sa foi, son courage, son enthousiasme pour conduire et réaliser toutes ces œuvres-là, cela l'a entraîné à en faire toujours plus. Elle a laissé en héritage à ses sœurs, les sœurs de la charité de Sainte-Marie, cette parole toujours au service du peuple québécois qu'elle aimait tant. C'était une femme exceptionnelle, comme vous voyez. Vraiment exceptionnelle. En 1954, Sœur Anselme a réussi à fonder l'école Marie-Clarac. En 57, c'est autour de cette colonie de vacances à Saint-Donat, dont je viens de vous parler. En 1958, c'est l'école Marie-Clarac. Développe son niveau d'enseignement secondaire. En 1964, Sœur Anselme fonde le centre hospitalier Marie-Clarac pour convalescents. En 1968, elle bâtit les résidences Angélica pour personnes âgées. Et 4 ans plus tard, les Cascades, toujours pour les personnes âgées. En 1983, Sœur Anselme, à la recherche de nouveaux défis, donc, débute sa mission avec l'œuvre de pastorale et de catéchèse dans les paroisses de la région de Iztapalapa, ou est-ce, à l'étranger. Et cela, sans pour autant perdre de vue les besoins des personnes âgées d'ici, puisqu'elle ouvrira pour elle une maison de vacances, dont je vous ai parlé, à Saint-Donat. Et en 84, la maison mère des Sœurs de la Charité de Sainte-Marie, à Turin, consacre l'érection canonique de la province canadienne, et Mère Anselme devient provinciale, supérieure provinciale. En 87, Mère Anselme amène ses sœurs à entreprendre la construction d'une école dans la banlieue de Mexico. Donc, à 83 ans, le 31 mai 1992, Mère Anselme, bien qu'elle ait passé les guides à Sœur Anne-Marie et à Sœur Louise Beaulac, il y a eu des Québécoises qui sont entrées là en grand nombre, pour ce qui est de l'administration quotidienne d'Angélica, des Cascades et de Marie-Clarac, bien, elle reste l'inspiratrice de toute une communauté religieuse. Elle est l'initiatrice de ces grands projets, puis elle continue de superviser le tout. Mère Anselme est pour tout le monde au Québec un modèle de foi, d'engagement social et de ténacité. Si l'école et l'hôpital Marie-Clarac, ainsi qu'Angélica, par exemple, occupe une place importante dans notre société, c'est parce que Mère Anselme a su reconnaître les besoins de la population et y répondre adéquatement, dépit bien souvent de tout, mais grâce à l'aide de Dieu et à la volonté inébranlable de cette femme exceptionnelle. Mère Anselme, Anselme Marie, qui était donc supérieure provinciale des Sœurs de Charité de Sainte-Marie, a reçu, avant de mourir, le 29 avril 1992, l'Ordre du Canada, la plus haute distinction du pays. Elle a reçu aussi, à titre posthume, le 26 janvier 1993, la nomination de grand officier de l'Ordre national du Québec. Mère Anselme-Marie est décédée à l'âge de 83 ans. Le 16 décembre, c'est l'anniversaire demain, 16 décembre 1992. Je vous rappelle qu'elle était née à Trévise, en Italie. Elle a immigré au Québec en 49. Et je résume en vous disant que ses réalisations sont immenses. Je vous rappelle le complexe Marie Clarac, du nom de la fondatrice de sa congrégation, une Française, et les résidences Angelica et Cascade, c'est immense, hein? Ce sont presque des gratte-ciels. Il semble que ses œuvres ne soient pas encore à la hauteur de la foi exemplaire de cette religieuse qui a voué sa vie à Dieu dès l'âge de 16 ans. Et c'est Mgr André-Marie Chimichella, évêque auxiliaire à Montréal, italien d'origine aussi, qui a donc demandé au conseil municipal de Montréal-Nord de rendre hommage à cette religieuse extraordinaire en nommant une rue de la ville Sœur Anselme. Et ça, c'est à la suggestion de M. Raphaël Pirot, réalisateur à Radio Ville-Marie. Et le maire Yves Ryan a remercié Mgr Chimichella de cette idée, mais déclaré que le conseil municipal étudierait la question. Et alors, le 2 mai 1995, lors du 40e anniversaire de l'école Marie Clarac, une fête a été organisée sous la présidence d'honneur du maire Yves Ryan. Et quand il a été invité à prendre la parole, il a annoncé en primeur que la rue Parc Georges, entre les boulevards Gouin et Henri Bourassa, porterait dans un proche avenir le nom de Avenue Mère Anselme, en ajoutant que dorénavant, pour se rendre soit à l'hôpital ou à l'école Marie-Clara, qu'il faudra passer par Mère Anselme. Et cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup de joie, et ça a rendu Mère Anselme connue dans Montréal-Nord pour toujours, son nom étant inscrit sur cette rue. Elle disait, avant de mourir, « Tout est naturel dans la vie. On est, on vit, on meurt. Et pendant toute ma vie, j'ai préparé ce moment de mon retour au Père. Je m'en vais vers Jésus. Quoi de plus beau ?»